France Inter. Le masque et la plume. Des films en salle, au sommaire de l'épisode du jour avec des cinéastes grecs, britanniques, tunisiennes et français. Au programme, une bavure policière pendant les manifestations des Gilets jaunes avec Dossier 137 de Dominique Moll. Jodie Foster, en psychiatre francophone, qui ouvre les portes de son inconscient dans Vie privée de Rebecca Zlotowski. La reconstitution de l'appel au secours d'une fillette gazaoui sous les tirs de l'armée israélienne. C'est la voix de Hin Rajab, réalisée par Kauter Ben Anya. Au programme figurent aussi Bugonia, huis clos qui met en scène des complotistes américains par Yorgos Lanthimos, et Running Man, film d'action dystopique d'Edgar Wright. Pour en débattre dans vos oreilles et face au public du Théâtre de l'Alliance Française qui compte aujourd'hui les élèves de l'établissement Saint-Stanislas de Nantes, quatre critiques, Marie Sauvion de Télérama, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Charlotte Lipinska de Télématin et Pierre Murat, électron libre. Des critiques pour des cinémas. Bonjour, bienvenue, voici le masque. Dans le courrier de la semaine, Anne Taillandier m'adresse une demande singulière depuis Bruxelles. Appliquer une nouvelle règle qui concerne exclusivement Pierre Murat.
Ah.
La voici énoncée par cette...
Je tremble que mon fils dans les opéras.
Tu peux. Désormais, dit-elle, Pierre devra voir tous les films, je dis bien tous, dans des salles 4D IMAX machin truc, avec fauteuil qui secoue, piston qui crache de l'air et jet d'eau. J'ai piqué un fou rire en vous écoutant raconter votre expérience de la projection de Predator Badlands. Je souhaite voir tous les films de la franchise en 4D avec vous, Pierre. L'invitation est lancée.
Ah ben, avec joie. Moi, j'accepte tout.
Concernant Predator Badlands toujours, Michel Savaric de Besançon remercie Jean-Marc de lui avoir donné envie d'aller voir ce film de monstre gentil qui a illuminé son week-end.
Tu vois, Pierre.
En revanche, Benoît Renouf de Saint-Sauveur-le-Vicomte est plus dubitatif. Dans son mail, Predator Badlands de Dan Trachtenberg lui a fait penser successivement au voleur de bicyclette, mais sans bicyclette, à l'emmerdeur avec Jacques Brel, même si, je cite, comparer Lino Ventura à un prédateur présente quelques limites, convient cet auditeur. Et finalement, la qualité globale du film m'a rappelé la filmographie complète de Max Pécasse,
termine cet auditeur. Tu vois, Jean-Marc.
Toutes celles et ceux qui nous ont écrit ont aimé l'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier, récit du chantier de l'Arche de la Défense sous le premier septennat de François Mitterrand. Merveilleux, écrit Khalil Shaibi, de voir des films aussi originaux, ambitieux et maîtrisés. À la sortie de la séance, raconte Delphine Blanchard de Poitiers, j'ai filé en librairie acheter le livre de Laurence Cossé dont est tiré le film et j'ai eu envie de prendre le train pour Paris la Défense. Si ça, ça n'est pas la preuve que le film fonctionne. Distribution et reconstitution remarquable, renchérit Éric Deputeau. Est-il trop tard pour défendre l'incroyable Femme des Neiges de Sébastien Betbédé, demande Janine Biel de Pau. Cette comédie qui met en scène une exploratrice intrépide et sans filtre consacre Blanche Gardin, selon cette auditrice. Ses frères, Philippe Catherine et Bastien Bouillon, les décors, le Jura et les pôles, tout est parfait. Tout semble simple et pourtant il y a des tonnes de choses à piocher dans cette matière poétique et un peu perchée d'approcher le monde, écrit Arnaud Sanquer. Enfin, Rocco de Nyon, en Suisse, n'est pas le seul à avoir intitulé son mail « Guy Forever ». Cher masque, chère plume, je me propose de financer l'achat d'un fauteuil et d'un micro à placer dans un coin de votre estrade pour que le statut de l'excellent Guy passe d'intervenant occasionnel à chroniqueur à vie de votre émission. Guy, vous êtes là ? Guy est absent aujourd'hui. On commence avec Bugonia du prolifique cinéaste Yorgos Lanthimos qui retrouve ici les comédiens Emma Stone et Jesse Plemons pour un thriller qui mêle gore, humour noir et complotisme. Teddy et Don, son cousin un peu simplet, en sont persuadés. Michel Fuller, présidente redoutable d'une grande firme chimique, Michel donc est une chef extraterrestre. Sa mission, dérégler le climat, détruire les abeilles, coloniser la Terre, en gros. Pour détourner Michel de son objectif, Teddy et Don la kidnappent et la séquestrent dans le sous-sol de leur ferme. Ils lui rasent la tête pour éviter qu'elle ne contacte son vaisseau mère avec ses cheveux. Commence alors un huis clos fait d'affrontements psychologiques et physiques entre Michel et ses ravisseurs, nourris aux théories complotistes du Dark Web. Emma Stone et Michel, Jesse Plemons incarne Teddy et Aidan Delbis, son cousin Don. Je précise enfin que Bugonia est le remake d'un film sud-coréen farcesque de Jang Joon-hoon, sorti en 2003. Marie, c'est toi qui ouvres le bal.
Alors, je commencerai par dire que j'aime le cinéma de Yorgos Lanthimos et j'aime Emma Stone. Et donc, j'avais tout pour être heureuse, mais que s'est-il passé ? Alors, il s'est passé que pendant 20 minutes, je suis assez convaincue par le film, notamment dans tout ce montage parallèle de la préparation du kidnapping. On est dans deux mondes différents, et comment raconter que les riches et les pauvres, les patrons et les exploités ne vivent pas sur la même planète ? Il a cet art-là, Lanthimos, au début du film, et je trouve que la séquence du kidnapping est vraiment démente, ne serait-ce que parce qu'il s'est vraiment tordu dans tous les sens pour la filmer, d'abord de très loin, où on voit des petits personnages s'agiter, ensuite à travers la baie vitrée d'une piscine, ensuite on voit des jambes qui volent, qui sorte d'un buisson, et voilà. Donc il y a une inventivité, il y a une dynamique qui est très amusante. Et puis après, le drame, c'est que ça se corse et que ça devient le film d'horreur banane de la fille attachée dans une cave, sadisée. Et moi, je l'ai trop vu au cinéma, je l'ai trop vu dans des séries, et si c'est pas réinventé complètement, ça me devient très pénible, en fait. Et ce huis clos bavard, duquel j'avais assez envie de m'échapper, en fait, m'a donné l'impression que Yorgos Lanthimos est comme ces gens qui sont prêts à tuer père et mère pour une bonne blague, pour faire une vanne. Et j'ai l'impression qu'il est prêt à raconter n'importe quoi pour faire un film avec sa copine Emma Stone.
Qui coproduit le film.
Y compris à raconter le contraire de ce qu'on croit qu'il pourrait vouloir dire. Et en fait, je me dis, mais est-ce que Yorgos Lanthimos a des choses à dire ? Je ne sais pas.
Et pour toi, Jean-Marc, est-ce que Yorgos...
Moi, je suis très réservé, contrairement à toi, Marie, sur le cinéma de Lanthimos. Et je trouve qu'au fur et à mesure qu'il avance, qu'il s'intègre dans le cinéma américain, ça fait plutôt du bien à sa mise en scène. Il y a quelque chose de son baroquisme formel qui se dissout dans une forme de transparence hollywoodienne. Et pour moi, c'est un peu un soulagement, qu'il y ait moins de filtres, moins de courtes focales qui déforment les perspectives. Et je trouve que, du coup, on découvre que c'est un assez bon storyteller. Et la façon dont il met en scène ce huis clos et ce face à face avec deux acteurs riches d'une technicité vraiment éblouissante, c'est quand même très captivant. Et ce que je trouve assez réussi aussi, c'est que le film est à la fois une satire très féroce du complotisme, mais en même temps, et ça je trouve que c'est une vision assez forte, il dit que même si on le prend d'un point de vue littéral, c'est vraiment n'importe quoi, cette idée des aliens qui dirigent le monde, et que malgré tout, ça touche à une vérité, et que là, ça me fait penser au cinéma de John Carpenter, à certains films comme They Live, où ils nous disent, la critique politique, elle est assez forte, elle dit que pour diriger le monde, en fait, il faut être déshumanisé, que les gens qui constituent l'élite économique aujourd'hui ne sont pas des humains. Et ça, je trouve que c'est quand même une fable assez puissante. Le problème, et là je ne peux pas aller plus loin parce que ça voudrait dire spoiler la fin, mais je trouve qu'il se prend les pieds dans son discours et qu'à force de vouloir faire le malin, il finit... Voilà. Et je pense que les 10 dernières minutes flinguent un peu le film, mais qui quand même est assez brillant dans sa majeure partie.
Pierre ?
C'est absolument nul, mais c'est une nullité absolue. C'est-à-dire que... Alors c'est vrai que moi j'ai la faiblesse d'aimer les cinéastes qui filment des personnages intelligents. J'en prends un au hasard, ça ne surprendra personne, Joseph Mankiewicz. Ben oui, parce que quand vous voyez Ève, la comtesse aux pieds nus ou l'affaire Cicéron, vous voyez des gens pervers, diaboliques, manipulateurs, mais intelligents. Or, le problème de Lanthimos, depuis le début, depuis tous ses films, c'est de peindre des crétins. Et alors, celui-là, c'est le pompon, parce qu'il n'y a pas plus bête que ces deux personnages-là.
Mais elle est très intelligente, Pierre.
Oui, elle est très intelligente, mais ça ne sert pas à grand-chose.
Elle est même redoutable. Et dans des films comme La Favorite, ils ne sont pas du tout des crétins, c'est pas vrai.
Ils sont peut-être le moins mauvais de tout ce qu'il a fait, mais c'est un cinéaste qui n'a rien à dire, rien à montrer, c'est catastrophique. Mais pauvre actrice, on lui rase la tête, on lui déverse des baquets de sang sur la gueule, on l'électrocute. Bon, hein, c'est pas elle, c'est le personnage.
Elle est volontaire, hein, je rappelle qu'elle a l'air de beaucoup s'amuser par ailleurs.
Oui, pauvre actrice, mais enfin, on n'a pas le droit. Mais pourquoi perdrais-je mon temps, et perdriez-vous votre temps, 2 heures de votre vie précieuse pour voir des conneries?
Charlotte,
je suis un peu moi comme Marie et Jean-Marc, c'est-à-dire je crois au film pendant très longtemps. Alors contrairement à Jean-Marc, c'est pas les 10 dernières minutes qui me posent problème, c'est peut-être même les 20 dernières. Et là, ça va être très compliqué pour en effet ne pas spoiler ce retournement de situation finale. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me dis mais c'est pas parce qu'on fait une farce macabre, un délire sur le complotisme, les extraterrestres et le délire gore que tout est permis et qu'on peut faire n'importe quoi. Arrive un moment où je voudrais qu'il me raconte quand même quelque chose. Et là, j'ai très peur. C'est-à-dire, dans ce que je comprends du fond ou du message du film, là, je n'arrive plus du tout à le suivre, puisqu'en effet, il nous retourne un peu comme une crêpe sur la fin. Après, on n'a pas parlé des dialogues, et il y a quand même des scènes, et notamment une scène de dîner au cœur du film que je trouve extrêmement bien dialoguée. Et moi, j'ai pris un plaisir à voir cette joute verbale entre Emma Stone, qui quand même ne s'en laisse pas compter, et qui répond du tac au tac à ces deux messieurs, avec en effet quand même une actrice complètement démente qui s'est affranchie de La La Land à un point mais stratosphérique, c'est-à-dire ce qu'elle nous propose en jeu et en visuel. Là, je me dis qu'il y a peu d'actrices de cette stature hollywoodienne qui sont capables d'aller aussi loin. Ça, c'est assez jouissif. Et sans rien du tout dévoiler tout de même de la fin, alors qu'il m'a complètement perdue narrativement, je pense que les derniers plans du film, il y a une succession d'une quinzaine de plans, sont parmi peut-être les plus beaux que j'aurais vu moi ces derniers temps, mais qui relève presque d'une installation d'art contemporain au MoMA. J'aurais voulu voir ça dans une expo, mais dans la narration du film est terriblement dérangeante.
Quel intérêt ce film ? Pardon, je vous demande à vous. Mais
on va demander au public si quelqu'un souhaite intervenir concernant Bugonia de Yorgos Lanthimos. Non, je crois que aucun bras ne se lève. Donc après Bugonia de Yorgos Lanthimos, on continue avec Dossier 137 de Dominique Moll, qui connaît un très bon démarrage en salle. 3 ans après le succès public et critique de La Nuit du 12, où l'on suivait 2 policiers de la PJ de Grenoble, Dominique Moll nous plonge cette fois au cœur de l'IGPN, la police des polices. Stéphanie y enquête sur des violences commises par des collègues une nuit de décembre 2018, pendant les manifestations des Gilets jaunes à Paris. Guillaume, sa sœur, sa mère et des amis avaient fait le voyage depuis Saint-Dizier pour manifester, autant que pour faire un peu de tourisme à Paris. Alors qu'il s'était perdu dans le quartier chic des Champs-Élysées, Guillaume est touché à la tête par un tir de LBD. Stéphanie a un point commun avec Guillaume, elle aussi vient de Saint-Dizier. Les collègues lui reprochent de décrédibiliser les forces de l'ordre, quand d'autres la soupçonnent de vouloir étouffer l'affaire. Dominique Moll déplie l'enquête en faisant entendre la langue des procédures, en utilisant photos, vidéosurveillance publique ou vidéos tournées au smartphone, et l'enquêtrice est interprétée par Léa Drucker. Pierre.
Eh bien, c'est un film qui est pour moi dans la grande tradition d'un certain cinéma social français. C'est-à-dire que André Cayatte, il y a très 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 longtemps, faisait des films qu'il faudrait redécouvrir d'ailleurs, parce qu'on a tous été, moi le premier, très méchant avec André Cayatte, mais quand vous revoyez Nous sommes tous des assassins, par exemple, ça tient vachement bien la route en dépit de ce qu'on écrit. Mais voilà, ou Yves Boisset quand il tournait Le juge Fayard et Le shérif, quoi. C'est un peu dans ce style-là. Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que c'est un film dossier, mais un peu plus que ça, avec une vraie caractéristique de tous les personnages. Ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas un film ni simplet, ni simpliste. C'est-à-dire que c'est pas... tous les flics tuent, par exemple. Ce n'est jamais dit, c'est pas... Mais si, tout de même. C'est-à-dire que, malgré tout, il y a une bavure, et à partir de cette bavure, on mène une enquête. Et tous les personnages sont... honnête. Ce que j'aime bien, c'est ça. Et je trouve que Léa Drucker est formidable et qu'autour d'elle, tous les flics qui mènent l'enquête sont vraiment très bien. C'est du bon boulot.
Charlotte. C'est très curieux, mais c'est peut-être la première fois que je vais trouver un film trop écrit. C'est bizarre de dire ça, parce qu'a priori, on se dit qu'un scénario doit l'être et être bien ficelé. Mais là, il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est-à-dire que c'est très intéressant d'être du point de vue de l'IGPN, parce que d'abord, on le voit assez peu au cinéma.
Oui.
C'est une position compliquée d'être une flic qui enquête sur d'autres flics. On ne peut pas être jugé parti. On ressent très bien toute l'animosité, voire l'hostilité qu'on lui renvoie dans la gueule toute la journée. Et en ça, je trouve le film très intéressant sur cette enquête extrêmement scrupuleuse et méticuleuse qu'elle va faire. Mais je ne m'explique pas pourquoi les scénaristes se sont crus obligés de, alors probablement pour enrichir ce personnage de Léa Drucker, de nous faire des coïncidences, mais de l'espace, qui, moi, m'ont beaucoup dérangée. C'est-à-dire, ah, tiens, elle vient de Saint-Dizier comme la victime. Ah, la mère de la victime se trouve être l'aide-soignante de sa propre maman. Je fais mes courses au supermarché, paf, on se croise. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne crois plus, ça décrédibilise toute cette histoire. Et là, moi, je vais pas dire une méchanceté en disant que même le louche n'aurait pas fait ça, mais un peu. C'est-à-dire que pourquoi créer ces coïncidences n'amènent pas grand-chose ?
C'est plus sec.
Après, Léa Drucker est phénoménale, donc moi ça suffit à mon plaisir parce qu'elle est géniale. Et il y a un personnage qui arrive et là, tout d'un coup, enfin, j'ai une sorte de respiration de densité de cinéma avec Guslaji Malanda, qui joue une témoin qu'il va falloir trouver et réussir à convaincre de témoigner. C'est une actrice qui apporte une opacité, un mystère, qui a une présence cinégénique de dingue, et que là, enfin, je suis ramenée à de la fiction et du cinéma, et non pas ces coïncidences vraiment très très faiblardes, quoi.
Marie,
sauf que ce personnage, tu vois bien qu'il est amené aussi dans le but, à un moment, de parler des banlieues et de parler des quartiers. C'est-à-dire qu'elle a une utilité, vraiment, et c'est mon problème avec le film. Alors, je l'ai revu...
Trop volontariste, donc, selon toi.
Oui, j'avais été très sévère à Cannes, je le suis moins après l'avoir revu, parce que je trouve qu'il y a un très bon film dans Dossier 137, qui est un film de procédure, qui est un film assez radical, avec une voix off qui égrène.
Bureaucratique.
Le langage.
Pourquoi ne pas avoir cette radicalité jusqu'au bout?
Bah voilà. Justement. Moi, j'aime les films de jargon. Parce que j'aime les films, en fait, où j'ai l'impression, tout à coup, de pénétrer dans le boulot des gens. Et ce boulot-là, c'est nous demandons et au besoin requérons tel et tel document. Et puis, il y a des scènes d'interrogatoire.
Ça
marche hyper bien. Mais on voit bien que pour atteindre à cette hauteur de vue, qui est le but du film, hein, cette espèce de neutralité. Il va falloir humaniser tout ça, il va falloir que de temps en temps, il y ait les collègues qui déjeunent ensemble et qui disent des choses utiles, des informations pour le spectateur. Et c'est là que je trouve que le film devient subitement un peu maladroit. Elle va croiser son ex avec sa copine qui lui dit « Tu sais que je suis au syndicat ?» Ah ben pardon, quel syndicat ? On parle d'alliance ? Moi, je veux bien savoir. Et là, je sens que le film, je vois les coutures en réalité, et c'est dommage parce qu'il y a à l'intérieur de ce film-là un très grand film, il me semble.
Jean-Marc ?
Oui, je suis assez d'accord, je trouve le film assez scolaire dans sa fabrication, et je pense que c'est une erreur du film que l'enquête déborde sur la vie privée du personnage principal.
Voilà.
On voit bien stratégiquement que c'est pour l'humaniser, pour renforcer l'identification du spectateur au personnage de Léa Drucker, mais ça produit des scènes vraiment très très lourdingues où tous les personnages, de son fils dans sa chambre à sa mère dans la cuisine, sont tout à coup les porte-parole d'une idée, d'une contradiction, pour que le film affiche tous les signes de la dialectique, et je le trouve très volontariste et très appliqué dans sa façon de faire ça. Et de manière, tu parlais de Kayat et de Boissé, moi précisément je pensais à la femme flic d'Yves Boissé auquel le film fait penser, et je pense que malgré, même si le film essaie d'être complexe et dialectique, c'est quand même le combat d'un personnage exemplaire, irréprochable, toujours du côté de la rigueur morale, face à un système de plus en plus vicié. Et je trouve que cette manière comme ça de cheviller le spectateur à un personnage qui est exempt de tous les vices attribués à un système, c'est quand même assez simplificateur.
Une contribution du public du Théâtre de l'Alliance française. Oui, monsieur, bonjour.
Bonjour. Je vous trouve un peu très tiède et un peu trop raide avec ce film. Je ne sais pas si c'est le meilleur film de l'année, mais je pense que c'est sûrement le plus utile, le plus nécessaire. Je trouve que le film interroge avec beaucoup d'intelligence d'où vient la violence, pourquoi de tels événements arrivent et pourquoi ils se répètent. Et je trouve qu'il le fait avec une subtilité assez radical peut-être, et en tout cas c'est un film qui n'oublie rien. On a parlé de la témoin, je trouve que le très court échange entre le témoin et l'enquêtrice est très court mais extrêmement important à l'échelle du film et de ce qu'il apporte. Je pense qu'il n'oublie rien, et On a un ministre de l'Intérieur qui a attaqué un humoriste parce qu'il dénonçait des violences policières dernièrement. Je pense qu'il est quand même utile de lui rappeler qu'il est complètement sorti de son rôle et que son rôle est d'être garant d'une institution policière, de s'assurer de sa probité et de son intégrité. Et ce film, je trouve, suppose que s'il y a des violences policières, c'est aussi parce que nos pouvoirs publics dévoient complètement cette institution des gardiens de la paix. Et l'actualité le confirme. Et donc je pense que c'est un film extrêmement utile et je pense qu'il est extrêmement important d'y aller et d'aller le voir très très vite. Merci.
Merci pour votre intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite se saisir du micro pour participer à ce débat sur dossier 137 de Dominique Moll ? Bonjour.
Bonjour. Du coup, je m'appelle Victor, je viens du lycée Saint-Stanislas. Moi, je voulais juste revenir sur le fait que vous avez parlé, faut parler trop de sa vie privée. Moi, je trouve ça aussi intéressant parce que du coup, on voit que son métier dépasse juste ses heures de travail. Enfin, elle y pense tout le temps, elle recroise, elle retourne chez ses parents et elle revoit encore sa famille. Enfin, du coup, les personnes avec qui elle devrait travailler, moi, je trouve ça assez intéressant de voir qu'en fait, c'est pas un simple travail et que le métier d'IGPN est un peu plus compliqué que ce qu'on pouvait penser. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci pour cette précision. Une autre intervention pour dossier 137. Bonjour.
Bonjour. Par rapport à... Il y avait les personnes qui entourent aussi le personnage de Léa Duruquer, donc son fils, où il prononce pourquoi tout le monde déteste la police. Et je trouve que par ces personnages-là, ou le personnage de la mère, il y a d'autres points de vue qui sont hyper intéressants. On disait que c'était peut-être un peu désuet, mais je trouve que ça apporte des visions différentes et même des visions de citoyens lambda. La mère peut-être un peu complotiste sur les bords, peut-être à dire ils vont étouffer l'affaire, tout ça sert à rien, alors qu'elle parle quand même du métier
de sa propre fille.
Et son fils qui représente la jeune génération avec une confrontation très très forte aux forces de police et un affront de peut-être de la jeunesse, un ras-le-bol de la violence de la police.
Donc vous avez aimé la diversité des points de vue ?
Oui, oui, il y a plein de diversité, ou même cette témoin aussi. C'est pas désuet, je trouve, tout ce qu'il y a autour de ces personnages-là.
Merci. On en a fini avec ce débat sur dossier 137 de Dominique Moll. Oui, on passe donc à Running Man, nouvelle adaptation du roman homonyme de Stephen King. La première adaptation date de la fin des années 80. Celle de 2025 est réalisée par le Britannique Edgar Wright. Ben est un ouvrier qui n'a pas les moyens de payer des soins à sa petite fille malade. Et pour les financer, il choisit de risquer sa vie en participant à l'émission Running Man. On pourrait décrire ce programme comme les Jeux du cirque, mais en version télé-réalité, puisque les candidats sont poursuivis par des tueurs professionnels en direct. Celui qui survit 30 jours se voit promettre une somme astronomique. En cumulant les jours de vie, Ben fait monter l'audience, devient une star, mais aussi la cible des dénonciations des téléspectateurs. Montou se déroule dans un futur plus ou moins proche, où la démocratie américaine est remplacée par une organisation privée et totalitaire appelée le Network, avec un N rouge pour logo. L'affiche compte Glenn Powell dans le rôle de Ben et Josh Brolin dans celui du producteur cynique de cette émission Running Man. Charlotte.
Mais comment prendre au sérieux un film où le gars va descendre en rappel 3 étages d'un immeuble avec génial. Une petite serviette de bain accrochée à la taille.
Génial.
Ça réjouit Pierre.
C'est génial.
À vrai dire, j'ai trouvé ça extrêmement drôle, mais tout d'un coup, je me suis dit, oui, alors, il y a une tentative d'humour, à quel degré, je ne sais pas, puisque cette scène-là, en l'occurrence, est très drôle. Mais 5 minutes après, ce héros qui est donc motivé par la rage et la colère de ne pas avoir assez d'argent pour soigner son enfant, pour penser à son enfant, c'est une petite chaussette tricotée en laine qu'il aura dans la poche. Et puis alors, dès qu'il la sort, il y a une petite larmichette qui vient pour lui redonner du courage.
C'est Mimi.
Et des flashbacks d'un tartignol. Mais c'est un truc, c'est génial dans une lumière laiteuse et sirupeuse. Bon, c'est vraiment pas possible. Alors moi, il se trouve qu'adolescente, Le Prix du Danger d'Yves Boisset m'avait vraiment terrifiée. Il y a même une histoire de plagiat, on va pas tout détailler ici parce qu'on n'a pas le temps, mais il semblerait, les Français ont finalement gagné hein, quand même, mais revenons au Prix du Danger, Boisset, 83, Michel Piccoli en showman était absolument terrifiant et Gérard Lanvin tentait
de s'en sortir. Et là, je voyais une version 2025 survitaminée, avec des moments très drôles de MacGyver et de scènes d'action vraiment très efficaces. Mais sur le fond, c'est plus possible. Il y a fin sur fin, on s'y perd complètement. Et à nous montrer très vite que ce jeu est truqué, ce qu'on a évidemment compris, au bout d'un moment, comme il y a des histoires de deepfake, on ne peut plus croire en rien de ce qu'on voit. Et c'est quand même un vrai problème.
Mais toi, Pierre, t'y as cru ?
Mais oui, bien sûr, parce qu'il faut dire que le film d'Yves Boisset, pardon, ne le revoit pas, parce que c'est pas bon du tout.
Hein. Mais parlons de Running Man.
Bon, mais enfin, voilà. Running Man, ben non, mais c'est formidable. Il faut, on se repose. C'est le, qu'est-ce qu'on demande à un film d'aventure ? On demande un héros sympathique, et là, il est sympathique.
Mais il
veut sauver sa petite fille malade.
Ouais.
Mais enfin, c'est formidable.
Avec une petite chaussette en
laine. En plus, qu'est-ce qu'on demande ? Des péripéties absolument invraisemblables. Alors, je reconnais qu'au bout de 2 heures, il y en a peut-être un tout petit peu trop.
Merci.
Mais quand même, qu'est-ce qu'on est content de passer 2 heures sans...
Et avec Glenn
qu'est-ce
Powell.
Qu'est-ce qu'on demande à un héros charismatique ? Eh bien, monsieur Glenn Powell, que je ne connaissais pas, il l'est. La séquence à laquelle tu fais allusion quand il descend de l'immeuble avec une petite serviette de bain... Qui l'enlève ?
Mais oui, j'osais pas le dire, je t'ai laissé...
Pour se faire un petit bandage
t'ai
pour
laissé le plaisir de dire.
Péter une vitre. C'est formidable. Un héros charismatique comme ça, moi, j'en redemande. Alors, on réfléchit pas, on s'en fout... C'est même pas la fable sur futuriste, sur le fascisme, etc. Oh
bah, c'est un appel à l'insurrection,
un
ce film.
Un film d'aventure avec un héros superbe. Vous êtes mon lion superbe et généreux. C'était ça, le vers de Victor Hugo. Eh ben, c'est ça qui est le héros.
Eh ben, on est passé de Yves Boisset à Victor Hugo et maintenant à Jean-Marc Lalanne.
Alors, moi j'étais assez fan de Glenn Powell, notamment dans un film de Richard Linklater qui s'appelle Hitman, où il était absolument génial en prof, un peu sage, un peu random, qui tout à coup devient tueur à gages par goût du transformisme. Et il est vraiment génial, Glenn Powell, quand il fait le pitre. Et là, tout à coup, héroïsé, schwarzeneggerisé, je le trouve très très mauvais.
Ah,
que je trouve vraiment que son charisme est complètement rapetissé par
et
le film.
Et ça déçu, Jean-Marc.
Peut-être, je suis amer.
Mais il ne sait pas jouer.
Ça pourrait être Bruce Willis, c'est-à-dire une espèce d'hésitation entre le premier et le second degré, être à la fois héroïque et drôle. Je trouve qu'il n'arrive jamais à trouver ce bon équilibre-là, et qu'il est vraiment, il n'a aucun charisme dans le film, je le trouve très mauvais. Et par ailleurs, le film, je le trouve aussi très mauvais et surtout très, très ringard. C'est-à-dire que je trouve que aujourd'hui, on ne peut plus dire que le fascisme des images passe par la télévision, en fait.
Et pourquoi ?
C'est-à-dire que ça vient vraiment des années. Parce qu'il n'existe plus aujourd'hui de régime d'image aussi vertical et centralisé que ce qu'a pu incarner la télévision des années 60 aux années 2000.
T'es sûr de ça ?
Ben, aujourd'hui, il y a une espèce de multiplication en fait des images, de fragmentation des audiences, qui fait que par exemple, lorsque un streamer meurt en direct, comme ça a été le cas récemment pour Jean Permanov,
oui.
Personne ne sait qui c'est avant qu'il ne meure en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce type de choses passe sous le radar. Il n'y a plus comme ça cette espèce de télévision avec ce fantasme orwellien. Ça vient vraiment des années 80 et c'est totalement ringard et ça ne dit rien.
Non, mais tu l'as
c'est un
film qui
a une prétention politique et je trouve que politiquement, le film est vraiment nul et non avenu.
C'est pas un film réaliste.
Avec une toute petite anecdote drôle, c'est que ça se passe demain, et donc quand on montre les dollars qu'il peut gagner, si on regarde bien, c'est Schwarzenegger sur le dollar.
Ah, ben c'est drôle.
Quel sens de l'observation drôle. On termine avec toi, Marie, sur Running Man.
Alors, je n'ai rien vu à Running Man, hein, parce qu'il n'y a rien à voir, et que je pense que ça m'aurait fait plus d'effet si on avait brûlé 110 millions de dollars, si on avait fait un grand bûcher télévisé, je pense que ça m'aurait davantage ému. C'est pas un réalisateur que j'aime beaucoup, mais j'aimais bien ses débuts. Et là, vraiment, il est entré dans l'ère du contenu. Donc, le fascisme est un décor. Et vraiment, j'ai tenté de toutes mes forces d'être un petit garçon de 13-14 ans, parce que peut-être que je me serais amusée un peu, voilà. Et je l'ai cherché en moi et je ne l'ai pas trouvé, malheureusement.
Pierre l'a trouvé, effectivement.
C'est pas une demi-fesse de Glenn Powell qui justifie d'aller se taper 2h14
alors,
de Running Man.
Il y en a deux et elles sont très belles.
Et franchement, c'est compliqué parce qu'en fait, on sent bien qu'à un moment, tout ce fatras de discours politique qui est complètement générique, le méchant est générique, le gouvernement est générique, tout ça c'est vraiment du décor pur, même pas beau, même pas intéressant, même pas neuf. Et tout ça c'est pourquoi ? Ben, c'est pour montrer des bagarres, c'est pour montrer des méchants très très méchants, avec des flingues, avec des bourre-pifs, avec des types qui tombent de la fenêtre, avec des gens qui s'entretuent.
Et ben oui.
Et pas très bien filmé,
et
nul. Donc je rejoins Jean-Marc. Voyez Hitman de Richard Linklater, c'était délicieux.
Quelqu'un souhaite intervenir pour ou contre Running Man d'Edgar Wright ?
Margot.
Bonjour.
Je suis une élève de Saint-Stanislas. Et moi, je suis plutôt d'accord avec Pierre parce que j'ai vraiment apprécié le film. Parce que je trouve qu'il remplit vraiment les caractéristiques d'un film d'action qu'on peut aller voir au cinéma. Donc ça veut dire qu'on se repose en le voyant et qu'on est quand même content de voir que ça remplit une sorte de vrai film d'action. Et moi, j'ai trouvé que même si c'est un film qui est basé sur tiré sur des personnes et des personnes qui vont mourir, bah c'est mis sous une forme d'humour avec, par exemple, comme vous le citez, avec la scène où le monsieur va être tout nu sur l'immeuble. Mais il y a aussi la scène...
Ça a marqué tout le monde, hein, vraisemblablement. Vous voilà. êtes d'accord avec Pierre Murat, qui c'est a 14 ça. Ans ce soir.
C'est ça.
Après Running Man, changement de registre avec un film qui fut l'un des événements de la Mostra de Venise où il a remporté le grand prix du jury, c'est La voix de Hind Rajab, réalisé par Kauter Ben Anya, cinéaste tunisienne, dont le film Les filles d'Olfa avait reçu le César du meilleur documentaire l'année dernière. La voix de Hind Rajab est un huis clos pendant toute sa durée ou quasi. Nous ne quitterons pas le centre d'appel du croissant rouge palestinien, l'équivalent de la Croix-Rouge, installé à Ramallah, en Cisjordanie. Ce jour-là, Omar, l'un des bénévoles du croissant rouge, se retrouve en ligne avec une fillette de 6 ans, Hind, qui appelle au secours. Cette enfant palestinienne est la seule survivante d'une voiture qui comptait 6 membres de sa famille. Ils quittaient leur quartier de Gaza sur ordre de l'armée israélienne avant que leur voiture ne devienne une cible. Toute l'équipe du Croissant Rouge palestinien tente vainement de porter secours à Hind. On ne voit jamais cet enfant, on entend sa voix. Enregistrée le 29 janvier 2024, et diffusée sur les réseaux sociaux par les membres du Croissant Rouge le jour même pour tenter de relayer son appel. Donc à partir de ce matériau sonore réel, Kauter Ben Anya met en scène ce qui s'est joué avec des comédiens, d'après le témoignage de celles et ceux qui ont vécu les événements. Après Les filles d'Olfa, qui avaient reçu le César du meilleur documentaire l'année dernière, je l'ai dit, Kauter Ben Anya mêle à nouveau réalité et fiction dans un film dont les producteurs exécutifs défile au générique de fin et où on lit Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Alfonso Cuarón ou encore Jonathan Glazer. Jean-Marc.
Je suis vraiment très partagé parce que le film a un impact émotionnel qui est assez incontestable. J'ai quand même été extrêmement atteint par ce que raconte le film, que je connaissais parce que cette histoire terrible a été amplement médiatisée, mais là on en suit vraiment le récit extrêmement détaillé. Donc ça a une puissance et en même temps que ça provoque légitimement de l'indignation, de la colère et de l'émotion, ça provoque malgré tout autre chose, plus problématique, et une forme de gêne et d'embarras. C'est-à-dire que ce qu'elle avait réussi dans son premier film, qui est cette greffe fiction documentaire, là je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le document sonore de la voix réelle de cette petite fille avec des acteurs qui lui répondent, plus ça avance et plus vraiment je suis embarrassé parce que j'ai le sentiment que c'est à la fois fictionnalisé, c'est-à-dire que ça crée des effets de fiction même si c'est documentaire, et fonctionnalisé, ça sert une construction dramatique que je trouve trop appuyée. C'est-à-dire que par moment, moi j'ai pensé par exemple à House of Dynamite de Catherine Bigelow, un film d'action en huis clos où on voit des gens qui téléphonent et qui regardent des écrans et c'est tout, mais où la caméra essaie d'imprimer une dynamique de film d'action. Et je ne vois pas pourquoi elle fait ça, pourquoi elle essaie de dramatiser quelque chose qui en soi est déjà aussi dramatique. Voilà, donc pour moi il y a vraiment une gêne, une greffe qui ne peut pas prendre entre cette voix réelle et des acteurs qui lui répondent. Je pense qu'il aurait fallu dépouiller au contraire énormément le cinéma et que face à cette voix il y ait du silence, le silence du deuil et travailler le document autrement qu'en l'intégrant dans une fiction qui paraît du coup extrêmement artificielle.
Charlotte.
Oui, je rejoins complètement Jean-Marc. On peut le voir comme un film sur l'impuissance et la colère et en effet il y a un impact très fort de cette histoire tragique. Mais moi, j'ai vraiment eu un malaise pendant tout le film, c'est-à-dire je me suis sentie manipulée. Et je me suis sentie tellement manipulée que j'ai été vraiment en résistance contre le film. J'aime bien, moi, les films de dispositif, je suis assez cliente de ça. Dans un côté complètement fictionnel, j'ai beaucoup pensé au film The Guilty, par exemple, qui se passait aussi en huis clos au téléphone. téléphone, mais qui était un polar, ça n'a rien à voir. Et là, cette façon de nous ramener constamment à la véracité de la voix, parce qu'il y a visuellement, c'est des modulations de son, donc vraiment, on ne peut pas oublier que cette voix est réelle.
Et un carton.
Mieux,
et,
coup, heureusement,
bah, heureusement, mais.
Un carton précise que l'enregistrement est.
J'ai ressenti une sorte de. C'est terrible ce que je vais dire, hein, mais de chantage à l'émotion. Et du coup, j'étais totalement en résistance. Et le malaise était double pour moi. C'est-à-dire que d'une part, le dispositif m'a vraiment embarrassée. Et d'autre part, ne ressentant pas l'émotion que je devrais ressentir devant un tel fait tragique, j'en voulais au film. Et un peu aux acteurs, alors évidemment pas du tout nommément, mais pour être totalement honnête, je ne les trouve pas tous très bons, notamment le jeune, celui qui reçoit l'appel, le plus jeune, on va dire, je trouve qu'il est dans un surjeu absolument terrible, et à partir du moment où je me suis distanciée du film, je ne voyais plus qu'un acteur vraiment pas terrible.
Marie.
C'est intéressant ce dispositif parce que ça crée vraiment des questionnements tout au long du film. Le problème de ces questionnements, c'est qu'ils me font sortir du film. C'est-à-dire que constamment, je me demande pourquoi tout à coup, en plus des voix des acteurs, je vais entendre la voix des vrais intervenants du croissant rouge, comme pour authentifier ce qu'elle est en train de
oui,
faire,
parce que
comme
parfois
un jeu des sept ressemblances.
Il y a des télescopages.
Et tout à coup, voilà, il y a un téléphone portable entre dans le champ et ce sont les images des vrais répondants sur le téléphone qui se superposent à celles des acteurs, etc. Et il y a un petit côté, vous avez vu comme c'est ressemblant et vous avez et je comprends pas en fait ce qu'elle est en train de faire. Donc j'ai des réserves aussi sur le film, qui est par ailleurs extrêmement, tu l'as dit Jean-Marc, et je te rejoins complètement, extrêmement puissant. C'est 3 heures de temps condensé en une heure et demie. Je pense que la fin, qui est du pur documentaire, où la maman de cette petite fille parle, où on voit tout à coup des vidéos, où, je pense que en fait, ça aurait pu donner un très bon documentaire, et j'ai du mal à comprendre pourquoi elle s'est obstinée à faire. Alors bon, des enquêtes journalistiques ont été faites par ailleurs sur cette histoire, et donc elle a voulu tenter autre chose, mais la mise en scène est très voyante. Elle fait des changements de points dans le même plan pour faire comme ça participer le spectateur, comme si son œil changeait de point de vue et entre le premier plan et le dernier plan.
Mais tout de ça, ses c'est bénévole.
Tout ça, c'est très voyant. Or, elle n'a pas la maîtrise de Bigelow, même si j'aime pas beaucoup House of Dynamite, elle n'a pas ce savoir-faire-là. Et donc, c'est très voyant et ça te sort sans arrêt du propos et de l'émotion que tu devrais ressentir.
Pierre.
Non, mais vous avez absolument tout dit. Je suis absolument d'accord avec vous, donc je vais être très court. C'est un film qui met mal à l'aise parce qu'on est gêné de ne pas apprécier autant qu'on le devrait et on ne peut pas apprécier parce que formellement, c'est pas très très bon, et sur le fond, eh ben, si on fait la moindre réserve, on passe pour un salaud. Donc je veux dire, tout ça est très très délicat, et je m'en voulais, mais vous avez tout dit, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est terrible, quoi. C'est un film qui met mal à l'aise parce qu'on est mal à l'aise et on arrive et on s'accuse d'être mal à l'aise, enfin c'est pas bien, quoi.
Est-ce qu'une personne du public souhaite intervenir pour cette tribune consacrée à la voix de Hind Rajab de Kauter Benania? Oui, en haut, au balcon.
Je suis effectivement d'accord avec tout ce qui a été dit, et c'est dommage parce que le procédé qui avait été utilisé dans Les Filles d'Olpha, justement, je trouvais que ça rendait puissant et évocateur, alors que dans ce film-là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, effectivement, on est pris en otage et c'est insupportable.
Une dernière intervention concernant la voix de Hind Rajab de Kauter Benania. Bonjour, madame.
Bonjour. Alors, moi, j'ai aimé le film. Enfin, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est vrai que c'est un peu désagréable. Et notamment
le téléphone
là, qu'on voit pendant très longtemps qui s'interpose. Mais malgré tout, c'est quand même fort et émouvant. Et je voulais juste te dire que il y a quand même des documentaires comme ça. C'est un film documentaire et il faut aller voir les films documentaires parce qu'ils nous forcent quand même à réfléchir, et même là sur Gaza, ben ça nous force à s'asseoir et pendant 1h30, 2h, se rendre compte de ce qui se passe sur place. Parce que quand on le voit à la télé, aux infos, ça dure 2 minutes, c'est entre il neige à Paris et le PSG a gagné. Et finalement, voilà, ça passe, on ne se rend pas compte. Et là, pendant 1h30, on passe son temps, on souffre avec les gens et on est témoin de ce qui se passe. et ça nous fait réfléchir. Et donc, je pense que c'est bien. Le cinéma de divertissement, c'est génial. Mais le cinéma documentaire, on a la chance d'avoir plein de documentaires qui passent dans les salles en France. Donc, je voulais juste dire que c'était bien aussi qu'il fallait aller voir ce film, La Voix de Hind Raja, parce que tout le monde a été super négatif. Mais je ne pense pas que ça le mérite à ce point. Voilà.
Merci pour votre intervention. Après La Voix de Hind Raja qui mêle documentaire et fiction, on enchaîne avec une fiction à part entière, c'est Vie privée, nouveau film de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster en français dans le texte. Jodie Foster est Lillian Steiner, une américaine installée à Paris où elle a son cabinet de psychiatre. Lillian est sûre d'elle, reconnue, mais le jour où elle apprend la mort d'une de ses patientes par suicide, elle vacille. Pourquoi n'a-t-elle rien vu ? Lillian se convainc que sa patiente a été assassinée et elle s'improvise enquêtrice avec Daniel Auteuil, son ex-mari, toujours amoureux d'elle. Les investigations de Lillian l'amèneront aux portes de ses propres rêves lesbiens ou encore à des explications avec son fils, Vincent Lacoste, à l'écran. À travers cette enquête sur la vie d'une autre, Lillian se découvre elle-même. Le tout mêle comédie policière, comédie de remariage, enquête psychanalytique à l'appui d'un scénario coécrit par Rebecca Zlotowski et la romancière Anne Berest. Charlotte.
Il faut accepter de se perdre dans ce labyrinthe mental, c'est-à-dire que elle embrasse beaucoup Rebecca Zlotowski. Il y a énormément de thématiques et il y a beaucoup de fausses pistes, de tiroirs, d'impasses. Donc c'est assez déconcertant, je dois dire. Ça paraît très tarabiscoté, mais tellement réjouissant, c'est-à-dire que moi j'ai eu un plaisir de jeu, c'est-à-dire bon, Jodie Foster, on sait à quel point elle est francophile, elle est divine, elle est sublime, mais la voir dans ce registre-là, plus léger, un peu comique, la voir dérailler, perdre les pédales, alors qu'on l'a souvent vu au cinéma quand même dans des femmes plutôt extrêmement structurées, fortes, là moi j'ai trouvé ça réjouissant. Ce couple qu'elle forme avec Daniel Auteuil, rien que pour une réplique, parce que elle pleure, elle ne sait pas pourquoi, et elle pleure sans arrêt.
C'est donc, pas moi qui pleure,
voilà, c'est mes yeux. Cette réplique du Gaulin portée par Jodie Foster face à Daniel Auteuil, mais pour moi, c'est un moment de cinéma absolument génial. Et puis, le portrait aussi d'une mère qui a des rapports très noueux avec son fils. Et là, ça donne lieu à une scène de dîner vraiment géniale où elle perd complètement les pédales, et j'ai trouvé ça absolument hilarant. Après, encore une fois, il faut accepter de se perdre dans une narration un peu tarabiscotée. On se perd un peu en route, mais c'est pas grave, on est rattrapé par le plaisir et par Jodie Foster.
Marie, toi aussi ?
Oui, et beaucoup d'émotions en ce qui me concerne. Je trouve la fin vraiment assez renversante. Moi, j'ai été très sensible à la sophistication veloutée de la mise en scène. Je trouve que c'est un
élégant.
Régal.
C'est élégant.
Absolument, c'est très élégant, c'est un régal. J'ai plusieurs scènes comme ça qui me reviennent illico en mémoire. Un divan vide, et puis tout à coup, la caméra panote comme ça, et le fantôme d'une femme apparaît dans un miroir. Il y a souvent des... Voilà, il y a des fantasmes, mais il y a des fantômes aussi. Il y a des voix d'outre-tombe, et puis il y a ce couple absolument merveilleux. D'abord, quel plaisir de voir des sexagénaires ou quasi beaux, amoureux. Je les trouve sensuels, je les trouve magnifiques.
Et drôles.
Mais Jodie Foster, pardon, je vais dire une chose très triviale et qui pour moi est un immense compliment, mais Jodie Foster, elle a des rides en fait. Et tout à coup, je me suis dit, mais ça fait combien de temps que j'avais pas vu une femme vivante, normale, sur un écran de cinéma? Et elle est sublime. Et il y a cette séquence... Je trouve que l'alchimie avec Auteuil est complètement folle. Ouais. Et il y a une séquence dans un ascenseur qui me confirme, j'avais pas tellement besoin de confirmation, hein, mais que Rebecca Zlotowski et l'érotisme, c'est quand même vraiment quelque chose. Daniel Auteuil pose une main sur le sein de Jodie Foster et ça vaut toutes les fesses de Glenn Powell.
Pierre, c'est là, forcément, il faut que tu
répondes. Tout à fait d'accord avec toi, Marie, sur la sophistication et l'élégance. Je trouve que c'est une mise en scène d'une élégance, et ça n'a l'air de rien. Quelquefois, c'est juste un mouvement comme ça de caméra interrompu, puis qui reprend après, et c'est fait avec vraiment... J'aime bien l'œuvre, les films de Rebecca Zlotowski, mais peut-être jamais à ce point-là, me semble-t-il, elle n'avait atteint cette élégance qui est finalement très rare actuellement dans le cinéma. Alors, oserais-je dire que dans cette sophistication, dans cette enquête, Je sais que je vais me faire... Mais Jodie Foster, je la trouve bien, mais pas plus que ça.
Taratata.
Non. Je la trouve un peu terne. Un peu terne comme meneuse de jeu. Maintenant, ce qui me ravit dans le scénario, c'est qu'une psychanalyse puisse se retrouver, en effet, face à ses faiblesses et à elle-même. Moi, personnellement, ça me fait très plaisir. Et la petite chose un peu trop, peut-être, même dans la sophistication, même dans l'élégance, c'est quelques fantasmes quand elle, sur le nazisme.
Oui, devient intérieur, mais ça fait partie des petites fausses pistes.
Des cheveux sur la soupe que je n'ai plus, des cheveux que je n'ai plus sur la soupe. Et ça n'a pas très, très, très intéressant. Mais vraiment, c'est très, très réussi.
Jean-Marc.
Non, moi, je trouve ce moment-là où tout à coup on passe de l'inconscient individuel à un inconscient national et à la hantisme des crimes commis en France par le régime nazi et la collaboration, je trouve ça très très puissant. Vraiment très fort sur le judaïsme du personnage et la manière dont elle est hantée par quelque chose qui la dépasse. C'est très beau. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une rencontre géniale entre un personnage et une actrice. C'est vraiment une idée formidable de Rilke Zotowski de la caster dans le rôle d'une psychanalyste qui pense que tout le monde a un inconscient sauf elle. C'est-à-dire qu'elle elle est dans une situation d'hyper-savoir, d'expertise, de surplomb par rapport à tout le monde.
Elle est pas très bonne en même temps.
Justement, la vie va lui asséner une série de leçons qui ne vont cesser de la déséquilibrer. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a une coïncidence entre le personnage et l'actrice. C'est-à-dire qu'on voit aussi que Jodie Foster est une star hollywoodienne, parée de tout le prestige des films où on l'a adorée. Et en même temps, elle n'est pas chez elle, elle ne joue pas dans sa langue. Elle est un peu dans une situation d'inconfort. Et elle est dans cette situation d'inconfort, elle est génialement maladroite. Et c'est ça qui est vraiment remarquable, cette coïncidence entre le personnage et l'actrice.
Le micro circule si besoin, si vous souhaitez participer à ce débat concernant vie privée de Rebecca Zlotowski. Non. Je mets donc un point final au débat et lance une virgule. Et c'est l'heure de vos coups de cœur. On commence avec toi, Pierre.
Alors, c'est un livre qui s'appelle « Les 101 films qu'il faut avoir vus avant la fin du monde ». Alors, j'aime pas trop, moi, généralement, les 100 westerns, les 100 comédies musicales, etc.
Mais 101, oui.
Mais 101, oui. Et celui-là particulièrement, d'abord parce que donc il est signé Christian Routier, qui est un romancier, qui a fait des essais notamment sur Clint Eastwood. Et puis, ce qui m'a séduit dans ce livre, c'est le choix des films. Parce que, par exemple, il ose, parmi les 101, prendre un film que personne n'oserait mettre, par exemple, qui est un film de Krzysztof Kieślowski qui s'appelle « Tu ne tueras point », qui est un film magnifique.
C'est sublime.
Vraiment, c'est sublime. Oui, mais on l'oublie et il ose dire que c'est peut-être un des films les plus importants. Voilà. Et il y a plein de choix comme ça. Par exemple, il prend « Diamant sur canapé », ce qui est formidable. Tout le monde aime « Diamant sur canapé », mais généralement, dans une liste de 101, on ne le met pas. Eh bien, lui, il le met, et il met « Le fanfaron » de Dino Risi, il met « L'impossible Monsieur Bébé » de Howard Hawks. Alors, il choisit Ophuls, alors il choisit mon cinéaste préféré, comme chacun sait, il choisit La Ronde. Évidemment, là, moi, j'aurais préféré qu'il mette Madame 2 avec Daniel Dario. Mais personne n'est parfait, et je trouve donc que c'est un livre...
C'est une faute grave, quand même, de mettre La Ronde.
Oui, mais malgré tout, mais pour tous les films qu'il ose choisir, donc je le recommande. Donc c'est Les 101 films qu'il faut avoir vus avant la fin du monde, de Christian Routier, et c'est aux éditions Télémac.
Alors peut-être que parmi ces 101 films qu'il faut avoir vus, figurent certains réalisés par Jacques Demy, et pour ma part...
Le journal de Rochefort.
Eh bien voilà, mais j'aimerais vous parler de deux podcasts consacrés à l'œuvre de Demy. Il y a Le Masque et Jacques Demy qui retracent toutes les critiques de l'émission concernant ces films depuis Lola en 1961. Le podcast compte 10 épisodes en tout et il y en a un où Demy est sur scène avec les critiques en public. Je précise au passage que pour les 70 ans du Masque et la Plume que nous fêterons à la fin de l'année, des cinéastes, des dramaturges, des autrices, des auteurs seront aussi sur scène avec nous pour renouer un peu avec cette tradition. Mais j'aurai l'occasion de vous en parler dans les semaines à venir. Revenons à Demy, il y a donc Le Masque et Jacques Demy plus La Story des Demoiselles de Rochefort, racontée par Laurent Vallière pour France Musique. Et là, c'est 5 épisodes qui retracent l'écriture, la chorégraphie, les séances de travail magnifiques des archives entre Le Grand et Demy. On entend Mac Baudard. Voilà, c'est merveilleusement bien raconté et mis en onde. Chaque épisode dure un quart d'heure et j'ajoute que vous pouvez les écouter avec vos enfants et ados à partir de 12 ans. La Story des Demoiselles de Rochefort plus Le Masque et Jacques Demy, c'est sur l'appli Radio France en accès gratuit. Marie.
Alors moi, je voudrais vous recommander un documentaire magistral qui s'intitule « Je n'avais que le néant » de Guillaume Rebaud. Alors vous l'avez peut-être vu sur Arte, mais il est sorti en salle le 26 novembre. C'est un documentaire sur l'élaboration de Shoah, le grand œuvre de Claude Lanzmann sorti en 85. À partir de 220 heures de rush non utilisées, et à partir d'extraits des mémoires de Lanzmann dans son livre Le Lièvre de Patagonie, l'auteur fait un montage absolument passionnant sur la genèse et surtout les tâtonnements de Shoah. Et moi, je ne savais pas du tout. Lanzmann raconte qu'au début, il ne savait pas où il allait. Il dit « Je voulais filmer, mais je n'avais que le néant », d'où ce titre absolument magnifique. Donc ça se dévore parce que c'est presque un film d'espionnage, il veut évidemment s'approcher au plus près de la mort, et pour ça il lui faut des gens qui ont été près des chambres à gaz, et il lui faut des victimes, il lui faut des bourreaux. Donc il a des faux papiers, il a une caméra cachée, enfin il y a toute cette aventure, et puis surtout ça raconte le processus en fait de pensée qui se met en branle pour réaliser Shoah, 12 ans de travail, avec un auteur qui au départ dit « moi je ne voulais pas aller filmer en Pologne, c'était le non-lieu de la mémoire, la Pologne ». Et puis un jour, il y va, bon, vraiment en fin de tournage, et il y a un panneau qui dit Treblinka, et tout à coup, c'est une illumination. Il faut voir ce documentaire, il est absolument passionnant, et si vous voulez enchaîner avec Shoah, c'est disponible gratuitement sur arte.tv.
Je n'avais que le néant de Guillaume Ribaud en salle et sur arte.tv. Jean-Marc.
Moi, j'ai choisi une série qui s'appelle Pluribus et qui est diffusée sur Apple TV. Une série créée par Vince Gilligan, qui est le créateur de Breaking Bad et de Better Call Saul, et qui investit cette fois le genre du fantastique, de la science-fiction, et qui imagine une mutation de l'humanité où tout à coup, tous les êtres humains seraient connectés, traversés par un même flux de conscience, un peu comme une société de fourmis, où chacun ne vivrait plus pour soi et en tant qu'individu, mais pour la collectivité. Sauf que il y a 13 personnes dans le monde qui ne vont pas être connectées à ce grand réseau, et le personnage principal de la série, qui est une écrivaine de best-seller, donc résiste et essaie de faire involuer l'humanité et de déconnecter tous ces gens. La série est un conte philosophique très très caustique, très brillant, et qui renouvelle complètement ce genre de fiction où un personnage essaie de sauver l'humanité, parce que ce que insinue la série, c'est que peut-être en fait l'humanité aurait tout intérêt à muter.
Pluribus, donc, de Vince Gilligan, série en cours de diffusion sur Apple.tv. Charlotte ?
Et moi, c'est Mimi, mon Mimi d'amour. Il aurait eu 100 ans dans quelques semaines. Michel Piccoli, le génie du jeu. C'est un très beau livre qui vient de paraître aux éditions de La Martinière. Il est signé Olivier Père. Et alors, évidemment, il retrace, il y a plus d'un demi-siècle de cinéma, avec les témoignages de celles et ceux qui l'ont fait tourner ou qui ont joué avec lui, donc notamment Juliette Binoche, Emmanuel Béart, Dominique Blanc, Marco Bellocchio, Costa Gavras, et j'en passe. C'est un très, très beau livre... vraiment à offrir et à s'offrir. Et puis en parallèle sur Arte, à partir de demain, il y a 5 films donc avec Michel Piccoli qui seront en accès libre. Alors des incontournables bien sûr, Le Mépris, Belle de jour, Vincent François Paul et les autres, rien que pour la scène du rôti, on peut se la refaire une 15e fois. Une petite rareté, moi un film que je ne connaissais pas qui s'appelle Le Point du jour de Louis Daquin qui date de 49, donc il était tout jeuneau. Et puis ce fameux Prix du danger dont on parlait tout à l'heure qui m'a tellement traumatisée moi ado que vraiment Pierre, je ne veux pas croire que le film est vieilli, film d'Yves Boisset où là il est Michel Piccoli est absolument effrayant, et le plaisir aussi de revoir Marie-France Pizier en productrice de show télé bien perverse et retorse.
Michel Piccoli, le génie du jeu aux éditions La Martinière par Olivier Père, plus le cycle Piccoli sur Arte à partir du 1er décembre. Jean-Marc Lalanne, Marie Sauvion, Pierre Murat, Charlotte Lipinska, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque et la Plume. Pour les prochains enregistrements, nous serons en tournée à Poitiers pour 2 émissions en public au TAP, scène nationale de Grand Poitiers. Donc, rendez-vous le vendredi 12 décembre à 14h et à 19h pour assister au débat sur l'actualité littéraire en début d'après-midi et l'actualité du cinéma en début de soirée. Pour être du Masque à Poitiers, vous pouvez réserver vos places à l'adresse maisondelaradioetdelamusique.fr. Stéphane Le Guenec réalise Le Masque et la Plume, et c'était avec Jean-Baptiste Etchepard-Bord, Nadège Antonini et Roxane Avis aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation et la préparation avec l'aide de Zora Desgouttes. Ma bande et moi vous retrouvons dimanche prochain pour d'autres enthousiasmes ou désaccords et la même liberté critique sur France Inter, évidemment.